Attention, Gouabou qui a peut-être un coup à jouer qui va donner pour Sagol en la fin de Julien. La quatrième but! La quatrième but!
Monaco avec une saison pénible l'année dernière.
Spécial, Lucien.
Ricardo qui partait encore un petit peu dans l'inconnu avec un recrutement pas très prestigieux.
On a eu des actions vraiment intéressantes sans être en danger. Voilà. Et maintenant, non, je pense qu'on n'a pas frappé, on a fait quelques sens, on n'a pas réussi à faire une frappe.
Que ça a été beaucoup plus prestigieux du côté du Paris Saint-Germain.
Que ça peut être la bonne surprise de la saison, ce groupe, cette équipe.
Peut-être c'était qu'un bon match. Allez, doucement.
Après, il y a toujours les deux présidents, Thibaut et Mario, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font vraiment pour aider le club. Laurent Rousset qui est toujours à la masse concernant ses choix.
Nous aussi on a compris un peu sur le coup que ce gars-là, on avait tout simplement rien à foutre du foot.
On ne peut pas se permettre d'avoir un entraîneur aussi mauvais.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Génération Soccer, c'est avec nous ce soir pour la spéciale Ligue 1. Vous êtes habitués toutes les semaines, le lundi soir, 21h. On est avec vous jusqu'à 22h30 pour refaire tout ce week-end en France, les résultats de la Ligue 1 bien évidemment, ce qu'on prévoit pour le week-end prochain, avec tous nos animateurs. Ce soir en plus, on aura un fil rouge Ligue 2 avec FAP. FAP et le fil rouge, ça ne fait plus qu'un maintenant. Salut FAP.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc on va commencer l'émission par ce petit point Ligue 2. Donc le match entre Amiens et Strasbourg qui se déroule au stade de la Licorne. Après 16 minutes de jeu, un partout. Ouverture du score pour les Strasbourgeois de Renaud Coat sur penalty. Et égalisation d'Anthony Weber contre son camp. Il y a 2 minutes après le penalty, donc 15e minute de jeu et un partout.
Ok, merci bien, et on tiendra contact, on prendra contact avec toi tout au long de la soirée pour savoir ce qu'il en est de ce match. Avec nous ce soir aussi, il y a un petit nouveau, c'est Vivien, spécialiste de la Ligue 2. Salut Vivien.
Salut tout le monde.
Évidemment, il y a Adrien, Helvetia et El Nantais qui m'accompagnent comme chaque lundi. Salut les gars.
Salut à tous.
Salut.
Alors ce soir, programme encore chargé après un gros week-end Ligue 1 avec Lyon. On va surtout revenir sur Lyon-Marseille sur ce gros choc de la semaine prochaine. Lyon-Marseille à Gerland dimanche. Alors est-ce que Lyon, déjà ça va être une de nos questions directrices ce soir, est-ce que Lyon est moins fort qu'avant ou c'est une simple illusion? Est-ce que Lyon est moins irrésistible que les autres années? Au niveau du résultat, on en a l'impression. On va en reparler ce soir. Et on va bien évidemment, est-ce que Marseille peut faire le gros coup la semaine prochaine à Gerland en allant faire tomber l'OL chez eux et de par le fait prendre la tête du championnat. Ça va être un de nos principaux débats ce soir. On aura aussi évidemment, on va revenir avec toi Adrien sur Paris. Tu étais au parc hier, on va revenir un peu plus en détail sur ce match et sur les objectifs que peut avoir Paris à la fin de la saison, parce qu'on voit vraiment une belle équipe encore ce soir hier parisienne. On aura aussi un dossier Ligue 2 avec notre nouvelle recrue Vivien et Fab qui est souvent qui suit souvent de très près la Ligue 2, et bien évidemment notre rubrique que vous connaissez à connaître en direct de la Ligue 1 avec les petites actus, les petites rumeurs de transfert, les blessures, les derniers bruits de couloir avec Adrien. Donc sans tarder, on va commencer avec Lyon. Lyon et ce sujet. Donc, Lyon est-il moins fort qu'avant ou est-ce une simple illusion? Je vais tout d'abord te demander, commencer par toi, Bastien. Comment tu les as trouvés samedi soir à la Beaujoire contre Nantes? Et qu'est-ce que tu pourrais retenir pour les autres équipes et ses concurrents directs comme Marseille lors de leur affrontement la semaine prochaine?
Lyon a été très faible samedi à Nantes. Je pense que c'est surtout ça qui les a empêchés de gagner. Ils ne méritent pas la défaite, honnêtement. Que dire? La défense a été très faible. Quand on voit une perte de balle de Jérémy Toulalan sur l'égalisation, c'est assez rare. Puis niveau attaque, on a vu qu'il leur manquait Benzema et Juninho. Hein. C'était assez impressionnant. Ils ne savaient pas par où passer. Beaucoup moins d'impact vers l'attaque. Je sais pas, Lyon était différent. Ils sont beaucoup moins tranchants sans Benzema et Juninho. Puis pour leur adversaire, je pense qu'ils ont la place cette année, enfin, pour essayer de lutter avec eux pour le titre, parce que tout simplement cette équipe est, ça se voit, a beaucoup moins d'expérience, beaucoup moins de ressources morales. Et bon, à eux d'en profiter.
Voilà. Ouais, et justement, comme toi, t'as vu passer les deux à la Beaujoire, Marseille et Lyon. Tu penses vraiment que l'OM est en mesure de lutter jusqu'à la fin de la saison avec les Lyonnais?
C'était pas le même match Marseille et Lyon, parce que Nantes-Marseille c'était de l'attaque défense, puis c'était pas le même Nantes en face. Nantes a beaucoup évolué. On a très très bien tenu l'attaque lyonnaise avec un très bon bloc défensif, contrairement à face à Marseille. Puis bon, on voit l'irrégularité marseillaise comme chaque saison, donc
ouais. Ok.
Je pense que si Marseille arrive à être régulier jusqu'à la fin de la saison, là ils pourront espérer être champion ou inquiéter Lyon.
Je comprends bien. Déjà justement, comme on commence sur le sujet marseillais, une petite réaction de FAP et Helvetia juste derrière.
Oui, donc par rapport à au débat que l'on se pose déjà depuis quelques années, c'est-à-dire pouvoir déloger Lyon et cette saison plus particulièrement Marseille, je répondrai comme tous les ans, on peut attendre de bonnes choses de l'Olympique de Marseille, mais comme tous les ans, on est souvent déçu et je pense que Messia ne dira pas le contraire. Il y a trop de points bêtement perdus par l'Olympique de Marseille qui montrent une certaine irrégularité qui cause très souvent la perte des titres, que ce soit pour Marseille ou pour d'autres équipes, mais plus précisément pour Marseille. On peut prendre l'exemple du match à Lorient. Si l'OM n'arrête pas de jouer à partir de la 60e minute, ils sont en tête de la Ligue 1 aujourd'hui. Donc, c'est assez difficile de croire au titre quand on a une équipe qui peut s'arrêter de jouer comme ça, sans raison. Et j'ai envie de dire que avec l'arrivée de Gatt, ça s'est un petit peu calmé, mais le fait de pouvoir enchaîner 3 ou 4 matchs complètement à côté est un défaut que l'on ne connaissait pas chez les Lyonnais jusqu'à cette saison, car on remarque que cette saison, si l'Olympique Lyonnais n'a pas autant de points d'avance que les années précédentes, c'est surtout à cause de son irrégularité et surtout aussi à cause d'un resserrement de niveau, j'ai envie de dire. Donc j'ai envie de croire aux possibilités de l'Olympique de Marseille, mais il faut que quelque chose se produise à l'OM, qu'il y ait une espèce de coup de jus pour qu'il n'y ait plus ces absences. Et dans ce cas-là, l'Olympique de Marseille aurait vraiment des chances de prétendre à la succession de Lyon.
Tu vois un peu les choses pareilles, je pense, Alessia.
Je suis complètement sur la même longueur d'onde que ça. L'Olympique de Marseille, c'est bien, bien trop irrégulier ces temps-ci, depuis quelques années déjà. De bien à cet adversaire, quand il joue avec une équipe assez remodelée avant les matchs de Ligue des Champions, ça, ça n'a pas grand chose à voir par rapport que ce soit Lyon-Marseille. Marseille était quand même venu avec une équipe assez pas loin de l'équipe type. Lyon vient avec une équipe à moitié modifiée. On peut pas clairement comparer ces deux matchs, même si c'est clair, on peut pas l'enlever. La prestation de Nantes a été intéressante et fait quand même perdre 3 points à Lyon et qui a maintenant plus que 3 points d'avance sur Marseille. Quand on sait que dimanche prochain c'est le duel des Olympiques, c'est clair que ça devient de plus en plus chaud. Maintenant, il faudra voir si Marseille arrive cette fois à prendre les 3 points, surtout que c'est clairement l'adversaire direct face à eux. Ça va être un match très très intéressant, mais j'ai peur que Marseille soit trop rapidement mis dehors par l'Olympique Lyonnais, même si ça, je l'espère pas, mais qu'on vive un peu ce qu'on a vécu l'année passée.
Ouais, justement, ça c'est quelque chose d'intéressant que tu dis là, le fait que Lyon peut se permettre de mettre une équipe bis pour aller jouer. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas réussi. Mais Marseille avait mis son équipe type. Bah, je reviendrai après là-dessus. Et est-ce que justement, Bastien, tu voulais réagir un petit peu sur le fait que les deux matchs pour toi n'étaient pas tant similaires que ça entre Lyon et Marseille, les deux réceptions de Nantes.
Oui, complètement. Là, Nantes reçoit Lyon suite à une victoire au Havre, donc beaucoup de confiance, des progrès dans le jeu net. Tandis que la réception de Marseille, c'était énormément de doutes suite à une défaite assez honteuse à Lorient 3-0, avec des erreurs défensives assez remarquables une nouvelle fois de la part de Gravegarde. Donc je pense que Nantes n'abordait pas les matchs de la même façon.
Entre Gravegarde et Douglas, vous avez la paire, vous.
Ah ouais, vous avez vu.
Nominé au ballon bleu, les deux.
Ouais, non, Gravegarde, je sais plus. Enfin bon, bref. Ouais, non, mais d'accord, tu voulais justement réagir sur le fait que la défense était pas pareille entre ces deux matchs-là. Il y a Giron qui nous a rejoint pour animer encore ce soir un consultant et un animateur de plus.
Moi, je pense que Marseille peut inquiéter Lyon avec sa bonne qualité d'effectif, surtout portée vers l'offensive. Bon, après la défense. C'est moins bien quoi, mais je pense que Marseille a des chances de titiller Lyon et de prendre la tête la semaine prochaine, pourquoi pas.
Là, surtout que Marseille est la bête noire de Lyon ces dernières années, avec cette victoire en coupe qui avait fait très mal à quelques minutes de la fin, où ils avaient fait un renversement de situation au Vélodrome l'année dernière, où Niang explose littéralement Lyon à Gerland. En plus, le match retour, un seul joueur brille du côté de Lyon, c'est Ben Arfa. Il est aujourd'hui dans les rangs, de la Pays de Marseille. Un match assez paradoxal, parce que on avait vu, et c'est une des premières fois que ça arrive. Et tu me confirmeras, Fab, que c'était bien ça. Ben Arfa s'était fait applaudir pour tout ce qu'il entreprenait sur le terrain au Vélodrome l'année dernière.
Eh bien, si je me souviens bien, il devait être rentré 30 ou 40 minutes.
Non, il était rentré à la 30e minute. Je sais plus qui se blesse. Il y a un joueur qui se blesse et lui rentre à la 28e par là. Et il fait un de ses matchs. Il met une. Certes, le Lyon a été très très mauvais ce temps-là, mais Ben Arfa fait un excellent match.
Oui, donc il a mangé la défense marseillaise à de nombreuses reprises. Il a failli marquer, il me semble, un ou deux buts ou une. Vraiment un gros match comme il avait pu le faire contre le Paris Saint-Germain par exemple, pour donner un ordre d'idée. Et oui, il s'était fait applaudir, mais à noter pour ce match-là que l'absence de Niang va être très très handicapante pour l'Olympique de Marseille, qui va devoir jouer soit avec Mamadou Samassa devant. Bon, on va pas s'étaler là-dessus. Mamadou Samassa, c'est un petit peu le Lucas ou de la mauvaise époque, donc c'est limite, ou sinon on va devoir jouer avec Valbuena Koné devant, ce qui est très très pratique pour tout ce qui est coup de pied arrêté.
Valbuena en neuf, enfin vraiment en attaquant ou en soutien.
L'année dernière il avait joué et il avait été plutôt pas mauvais, mais c'était dans sa période de pleine réussite, donc en espérant qu'il puisse refaire de même cette année, ce que je doute un petit peu plus. Mais le problème, réellement, c'est le manque de puissance devant de l'Olympique de Marseille, car à force de recruter des joueurs d'1m40, 1m50, on se retrouve avec un gros problème, on ne peut jouer qu'en profondeur. Et là où Mamadou Samba, ça serait intéressant, c'est qu'il pourrait jouer en appui, en pivot, et il pourrait être utile sur des centres de Bonnard ou de Taïwo, par exemple, où d'habitude, Niang est là, mais a quand même des difficultés contre les joueurs très grands. Donc, à voir, mais j'espère en tout cas que Samassa va reproduire le même match qu'il avait fait comme contre Lille, si je ne m'abuse. Il marque son premier but et il est assez bon. Donc, il reste pas beaucoup de matchs. On va voir. On peut voir que Guérez a clairement annoncé la couleur. Ça sera sûrement Samassa Kone, vu que Randa n'est même pas retenu dans les 18 pour jouer. Donc, je pense sincèrement que Samassa va avoir sa chance. Et
Grandin qui fait pourtant des rentrées pas mal avec vous. À chaque fois que je le vois jouer, il est.
Enfin, au début de saison, correct, on va dire. Il a fait des bonnes rentrées au début de saison. Maintenant,
Même l'an passé, hein, quand il est arrivé. Même l'an passé, je sais. Ouais, j'avais vu un match, un de ses premiers matchs contre Monaco en coupe.
Le premier match contre Monaco, il fait sa passe décisive et son but.
Exactement.
Il fait le match de sa vie là. Il fait le match de sa vie à l'OM, je pense. Enfin, sans être méchant, mais il fait son premier match. Il fait le meilleur match qu'il a fait.
Tu sais, pour une rentrée comme ça, quand t'arrives dans un club, faire un match comme ça, ça témoigne quand même d'un. Faut avoir un sacré charisme et un sacré culot pour pouvoir sortir un match comme ça. Il a peut-être un peu de chance de faire ce match-là, mais je trouve que c'est ça témoignait peut-être que ce joueur pourrait apporter quelque chose à l'OM, alors que il avait été beaucoup critiqué. Moi, le premier, je le critiquais pour ses déclarations un petit peu présomptueuses, je trouvais. Mais finalement, et je suis un petit peu dommage. Donne-moi un peu ton avis là-dessus, Fop, sur le cas Grandin qui a un petit peu laissé de côté, je trouve moi.
Il y aurait eu un problème avec le staff technique. De ce que j'ai entendu dire, il y aurait eu un problème avec le staff technique. Et c'est regrettable que staff joueur viennent faire pâtir l'équipe, toute l'équipe en tire sur le terrain. Mais d'un autre côté, prouver qu'on pouvait lui faire confiance. Grandin n'a pas encore la carrure ni la confiance de l'entraîneur. Je trouve ça dommage quand même de ne pas le faire jouer, mais à voir. Je suis pas sûr qu'en le faisant jouer, vu qu'il n'a pas joué ces derniers matchs, je suis pas sûr que le mettre titulaire directement et essayer de lui dire fais-nous oublier Koné. Je pense pas que ce soit la meilleure façon de le remettre en confiance et la meilleure façon qui claque un gros match.
Non, surtout que Grandin, enfin c'est mon avis, mais j'ai l'impression que c'est plus un joker, un type que tu mets aux alentours de la 70e, 80e minute, et qui sera là par sa vitesse, sa technique, pourquoi pas apporter un peu de la vitesse et des stats et les défenses. C'est pas vraiment le titulaire, en tout cas pas pour l'instant, qui va, comme tu l'as dit, faire oublier Koné. Mais faut voir dans les prochaines semaines. En tout cas, pour moi, ça a toujours été un joker intéressant. On l'a vu en début de saison, les deux premiers matchs, il met deux buts.
Ces deux premiers matchs, ça confirme un peu tes propos, parce qu'il était rentré contre Rennes.
Voilà, il rentre contre Rennes et contre Auxerre.
Ouais, voilà, exactement. Bon, contre Auxerre, c'était un match facile, on va dire, mais contre Rennes, c'était moins évident. Bon, Marseille se fait égaliser à la dernière minute, mais on avait vu quand même encore de belles choses. Je vais te donner la parole maintenant, Giron, si que tu voulais un petit peu réagir aussi sur cette équipe de Marseille.
Ouais, d'abord, on parlait des attaquants.
Parle plus fort, s'il te plaît, parle un peu plus près de ton micro.
On parlait des attaquants de l'Olympique de Marseille. Moi, je pense que ce qui manque à l'Olympique de Marseille, ça serait un joueur comme Chamakh, un joueur qui joue plus pour le collectif, qui prend moins la profondeur, qui joue plus en déviation. Je pense que ça serait bénéfique. Mais là, on parle de la suprématie lyonnaise, mais pour moi, si Lyon n'est pas champion, c'est pas Marseille qui serait le principal.
Outsider.
Ouais, je pense que Bordeaux est beaucoup plus étoffé, a une défense beaucoup meilleure. Je pense que Bordeaux est plus complet pour rivaliser avec nous.
Justement, c'est vrai que sur ce point-là, je te rejoins sur l'effectif. Et sur l'histoire que Marseille, il manque un tueur, est-ce qu'il manque pas tout simplement à Marseille quelqu'un de grand devant et de costaud parce que Niang connaît, on en parlait tout à l'heure, on en rigolait avec Valbuena, mais c'est la même chose avec Niang et connaît. Alors encore plus, c'est sûr, s'il trouve un mec extraordinaire comme Chamac qui sait très bien jouer en remise, qui sait très bien jouer pour le collectif, mais est-ce que tout simplement il manquerait pas quelqu'un de vraiment...
Je suis désolé de dire encore une fois, mais pour moi c'est le joueur que l'OM n'aurait jamais dû se partir.
Mais ce qui est dommage, c'est en plus c'est Djibril Cissé on aurait pu trouver un remplaçant, parce que Cissé on a connu mieux, même en déviation et tout ça, il y a peut-être des joueurs...
Non, mais Cissé c'est pas un joueur de déviation, quand t'as Lyon qui tourne autour, t'as pas besoin de...
Oui, voilà, c'est costaud, c'était déjà ça, mais Marseille aurait peut-être pu encore trouver mieux, quoi, c'est ça que je voulais dire.
Voilà, bon, Cissé va prendre la profondeur, après Lyon jouera en déviation dans ce cas-là. Mais c'est clair que Cissé n'aurait jamais dû partir... ou en tout cas l'OM n'aurait jamais dû le laisser partir, même si c'est le désiré fermement. C'est vraiment bien dommage, et je pense qu'avec lui on a l'OM a déjà 3 points d'avance, 3 points de plus au classement, voire 6 sur les matchs un peu bloqués où il aurait peut-être pu faire la différence, comme par exemple on parlait d'avant contre Nantes, où peut-être il peut faire la différence lui tout seul. Mais c'est clair que c'est à mon avis la plus grosse perte du début de saison pour l'Olympique de Marseille.
Ouais. Justement, je voulais juste dire que pour nos auditeurs, merci Dan qui est aux manettes ce soir. C'est Toulalan qui était sorti la semaine dernière après 30 minutes de jeu lors du Marseille-Lyon au Vélodrome et qui avait été remplacé par Ben Arfa et Tinslan. Bastien, d'abord, je vais te faire réagir sur ce qu'avait dit Géron tout à l'heure, et puis je te laisserai FAP après sur l'histoire du tueur à Marseille et en particulier de Djibril Cissé.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Géron sur le fait que Bordeaux est beaucoup plus à même de rivaliser avec Lyon que Marseille, tout simplement parce que même si en ce moment ils font un peu plus de matchs nuls, c'est une équipe beaucoup plus régulière et qui a un jeu bien plus développé pour moi et qui est une équipe assez équilibrée, c'est-à-dire une bonne défense, un bon milieu, une bonne attaque. Donc pour moi c'est l'équipe qui peut le mieux rivaliser. Puis d'ailleurs on avait vu le match à Lyon
où ils avaient... Paradoxalement, ils ont peut-être aussi des problèmes d'efficacité et de réussite, Bordeaux, parce qu'on voit certains matchs qu'ils perdent. Le seul match où je les ai vus réellement dominer et le match qui fut accompli, c'est contre Le Havre. Bon, vous allez me dire c'est Le Havre, mais j'ai pas vu. Après, regardez contre le Bordeaux-Valenciennes, on voit que c'est un petit peu juste. On les voit les perdre à Nancy. C'est en fait Bordeaux, c'est ça qui est assez paradoxal. Marseille est peut-être un peu plus à même sur ce plan-là, même s'il leur manque quelqu'un devant. Marseille est peut-être plus à même de finir et de pouvoir peut-être tuer le match, même si on a vu des retournements de situation comme contre Lorient.
Non, déjà je pense que pour Valenciennes, ils avaient un petit peu la tête à deux mains, parce que bon, c'est légitime. Puis à Nancy, bon. Je vais pas trop critiquer Nancy, mais le nombre d'équipes qui ragent sur cette équipe parce qu'ils dominent largement le match et qui nous foutent un but en contre sur leur seule occasion du match, bon, je pense qu'on peut juger Bordeaux sur ça.
En parlant de Nancy, attends juste Giron, en parlant de Nancy, c'est vrai que c'est Dan qui nous le fait rappeler, et un joueur qui s'appelle Wagnerlof qui leur a mis 3 buts la semaine dernière. Et qui serait vraiment intéressant pour un club français, par exemple, comme l'OM. Mais après, il faut avoir les sous pour pouvoir le payer. Vas-y, Giron.
Bah justement, le match contre Nancy, c'était ça, quoi. Ils ont fait un tir cadré pendant le match. Mais de toute façon, pratiquement tous les matchs qu'on a perdus, c'est des matchs dans le jeu, dans les statistiques, on méritait pas de perdre, quoi. Et notre gros problème, c'est la finition, parce qu'on a du mal à allier suprématie au milieu de terrain et finition, car si on veut être bon, avoir tenir le ballon, avoir toujours ce qu'on voit souvent, 65% de possession, il faut pas avoir Kamenagi en attaque, et donc ça fait quand même un finisseur en moins, parce que Chama qui fait beaucoup de travail, mais il peut pas être au four et au moulin et puis marquer.
Exactement, c'est ce que tu disais l'autre fois, où tu disais on peut pas laisser Alou Diarra tout seul devant la défense, faut lui mettre Fernando à côté, mais à ce compte là ça enlève quelqu'un devant et c'est le problème de réussite qui revient. Donc on a vu un petit peu, moi je suis d'accord avec vous sur le fait que Bordeaux a peut-être un effectif meilleur, surtout au niveau des titulaires, pour pouvoir concurrencer Lyon. Mais maintenant, on va revenir sur le problème d'attaquant qui manque vraiment un finisseur à Marseille, et en particulier sur Djibril Cissé. Tu voulais réagir, Fab?
Oui, donc je voulais réagir par rapport à ce qu'on a dit. Djibril Cissé voulait partir, et je trouve très con de vouloir garder un joueur contre son gré, car s'il n'a pas envie de jouer, bah, il jouera pas, que l'équipe en ait besoin ou non. Je pense que c'est une erreur de garder un joueur qui veut partir. Il voulait repartir en Angleterre. Une occasion s'est présentée, il est parti. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Le truc le plus dommage dans l'histoire, c'est que ça se passe à 3 ou 4 jours de la fermeture du mercato, et donc il n'a plus rien à faire pour le remplacer. Et ça, je pense que s'il voulait vraiment partir, je pense qu'il y avait un moment qui lui est choisi, parce qu'il a un peu foutu, je sais pas l'expression, mais il a un peu foutu les dirigeants dans la merde en partant à 2 jours de mercato. Le problème, c'est que l'achat de Samassa, c'est une demi-erreur, j'ai envie de dire. Enfin, on verra, mais Samassa, pour moi, c'est une erreur. Mais le fait que Cissé parte, c'est plus la date qui me gêne, plutôt que de ne pas garder le joueur. C'est dommage, mais...
Je suis d'accord avec toi aussi, Fap. Comme quoi, moi, je pensais que c'était peut-être la meilleure réussite du mercato, c'était d'avoir lâché Cissé pour Marseille, parce que moi, c'était vraiment un joueur que je n'appréciais pas dans ses qualités et tout ça. Et je pensais que Marseille aurait pu trouver un remplaçant. Mais c'est vrai que la date à laquelle ils l'ont lâché ne leur ont pas permis de trouver ce fameux remplaçant. C'est là où Marseille a peut-être mal joué le coup, parce que ils le savaient que Cissé voulait partir, c'était pas nouveau. Ils l'ont pas su à 4 jours de la fin du mercato. Donc c'est peut-être ça où on peut leur reprocher au staff marseillais et à Anigo. Juste pour dire que Cissé en est à 6 buts en Premier League avec Sunderland, et à peu près 10e dans le classement des buteurs de la Premier League. Voilà pour une petite news de l'ancien Marseillais. Une réaction de Bastien.
Non, il n'y a pas de Bastien, donc on va passer à autre chose.
Ah, bon, on va passer tout simplement à votre impression. Moi, j'avais relevé quelque chose, en fait, sur le fait que Lyon recrute toutes les années français. C'est la politique de l'AS, on est d'accord, ça marchait très bien jusqu'à maintenant. Ils recrutent les Kallström, les Toulalan, tout ça, ça marchait impeccable. Mais est-ce que cette année, ce recrutement un peu trop français n'a-t-il pas un peu des limites? Je m'entends par là, c'est que si on veut voir sur le long terme et un petit peu plus loin, je trouve que au niveau de la profondeur de banc, Lyon n'a pas réellement surcruté, même dans le 11 titulaire, des mecs comme Ederson, Pjanic. Il n'y a que Lloris qui est pour moi une réelle satisfaction cette année. Est-ce que ce recrutement et cette politique de l'AS, que moi-même j'ai embaumé, parce que je trouvais que c'était très, très intelligent de faire ça, est-ce qu'elle n'a pas des limites, et qu'un club comme Lyon, dû à son attirance, ne pourrait pas tenter des joueurs étrangers qui sont quand même reconnus pour leur talent, et même avec un temps d'intégration, il pourrait s'adapter à l'OL. J'ai juste, pour finir, j'ai relevé par exemple des joueurs comme, moi je suis un petit peu la Serie A, tu me contrediras pas Elvesia, mais des joueurs comme Cassano, comme Nicoli ou comme Diego Milito, pour l'attaque de Lyon qui des fois rencontre des problèmes autour de Benzema, ça serait vraiment d'excellents joueurs. Et Cassano, c'est la Sampdoria.
C'est clair, mais maintenant les trois ils sont bien installés dans leur club.
Voilà, mais c'était cet été qu'il fallait aller.
Voilà, Milito, fallait le prendre quand il est encore au Real.
Il est revenu à 8 millions pour son ancien club Genoa, c'est quand même ridicule, 8 millions, faut pas non plus. Quand on voit que Makoun a été pris pour 15, ou que Ederson 10 ou 12, je sais plus, faut voir ça. Donc une réaction, il se passe des choses en Ligue 2 à FAP.
Oui, donc pour signaler la mi-temps au stade de la Licorne, un partout entre Amiens et Strasbourg.
Ok. Une réaction justement sur le fait de ce recrutement un peu trop français de Girondins.
moi je pense que c'est une contrainte quoi, parce que les Cassano tout ça, je pense qu'ils ont pas envie de venir en Ligue 1 tout simplement. Ils ont pas avoir l'argent pour le faire, Lyon, c'est surtout la réputation du championnat qui les empêche. Et ils ont acheté des bons joueurs quand même, Pjanic et Ederson, c'est pas n'importe quoi, mais il y a surtout une mauvaise gestion je pense de la part de Puel. Il a fait jouer Ederson à un poste qui est pas le sien, Pjanic il lui a pas laissé sa chance quand Juninho était un peu moins en forme. Donc il y a aussi Puel qui a un peu mal géré les nouvelles recrues, je pense.
Ok.
T'aurais aussi ton avis là-dessus, Adri?
Ouais, parce que tout à l'heure tu disais Lyon ne recrute pas l'étranger. Enfin, Lyon a recruté Delgado.
Oui, mais moi je te dis des joueurs reconnus à l'étranger. Parce que Delgado, excuse-moi, il venait du Mexique, il me semble.
Ok, bah alors on va parler de Rosas, l'espoir espagnol du Barça, qui n'a que.
Qui a juste été refourqué à Lyon par le Barça, c'est tout.
Oui, mais voilà, peut-être pas. Il y a les joueurs que je t'ai cités avant sont des joueurs quand même d'expérience. On a vu, ils ont réussi une carrière.
Ils n'ont pas l'argent pour payer. La Sampdoria va vendre à Cassano des vingtaines de millions d'euros. Ils pourront pas l'acheter. Et puis Cassano à Lyon, c'est dans vos rêves, quoi. Enfin, ça arrivera jamais, à mon avis.
Bah, c'est bien ça le problème. Pourquoi il faut que ça soit qu'on ait ce cliché-là, Cassano dans vos rêves? Il faudrait pas que ce cliché-là arrive.
Parce qu'en France, on peut pas acheter des joueurs, des grands joueurs, ils sont pas.
Excuse-moi, au niveau de l'attractivité, la Sampdoria que je connais un petit peu, c'est quand même beaucoup moins intéressant que l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui est presque assuré de jouer à la Ligue des Champions chaque année.
Et qui reste... l'entraîneur le fera pas jouer à tous les coups, ce sera, voilà.
Au niveau de Cassano, c'est vrai qu'on a peut-être pris le mauvais exemple parce que sa gestion est assez dure. C'est un joueur assez compliqué.
Mais Milito, par contre, au contraire, Milito, lui, ça peut être le.
Voilà,
le
exactement. Milito, c'était vraiment le coup. Saragosse descendait. C'est dommage qu'on n'ait pas Marvolo là parce que je lui aurais demandé quelques nouvelles de Saragosse. Ce club, j'ai jamais compris pourquoi il est descendu en deuxième division espagnole. Mais bon, c'est comme ça. Ils sont descendus et on voit un Diego Milito pas libre mais qui est obligatoire, c'est pas un joueur qui va jouer en deuxième division espagnole, tu me contrediras pas. Elle, et quand on voit ses prestations en Serie A, il est pour l'instant capocannoniere de la Serie A avec 12 ou 13 buts.
Il marque encore hier soir dans le derby de Gênes.
Je me demande vraiment si c'est bien ce recrutement français, mais faudrait peut-être songer à voir des joueurs, mais autres. Évidemment, Adrien avait donné l'exemple des Crozas, mais ça, c'est pas un joueur d'expérience pour moi. C'est pas un joueur comme ça qui te permettra d'avancer, et c'est pas un joueur comme ça qui te permettra surtout d'occuper une place de titulaire sur le front d'attaque. Une petite réaction du forum, Fap.
Oui, donc c'est une réaction d'Enzo qui nous dit peut-être que Lyon est plus attrayant que la Samp, mais la Serie A l'est beaucoup plus que la Ligue 1.
Ah ouais, ça, c'est ce que j'ai dit, la Ligue 1 ça fait peur, il n'y en a aucun qui veut venir s'enfermer en Ligue 1, hein, des joueurs classiques.
Alors, d'accord, alors là sur ce point-là je suis entièrement d'accord, mais... Le fait quand même, faut voir après la carrière du joueur, le fait qu'un joueur puisse évoluer dans un club qui joue chaque année la Ligue des Champions entraîne quand même un sérieux atout pour le club en question. Il a quand même, Cassano là, il est même pas assuré chaque année de jouer l'UEFA, et encore loin de là, parce que encore vu l'homogénéité des clubs en Serie A cette année, il n'a cette assurance là, tandis qu'à Lyon il l'aurait. Donc je veux bien que la Ligue 1 soit moins attractive et tout ça, mais le fait bon, c'est vrai qu'à la Sampdoria il est sûr d'être le joueur, le chouchou des supporters, on va dire, puisque c'est le grand joueur et l'image du club en ce moment. Mais bon, je suis un petit peu déçu par cette politique de Lyon qui ne veut que recruter français, qui ne voit que par ça en ce moment. Donc
ils ont essayé de recruter étrangers comme par exemple Odo, bah ils ont tout simplement pas pu, ils ont préféré aller autre part, donc c'est pas le choix.
Oui, c'est vrai. Sinon, je voulais, bah on va finir sur ce sujet de Lyon-Marseille, un petit peu cette opposition, sur le fait que Lyon n'a peut-être pas la profondeur de banc, on emploie souvent ce mot-là, mais ici on peut l'employer, la profondeur de banc pour jouer et faire tourner l'effectif contre des équipes comme Nantes. Ils l'ont fait contre Nantes, mais est-ce que la qualité est suffisante pour quand même affronter des équipes de Nantes? Fab, est-ce que tu penses que Lyon a l'effectif suffisant pour jouer Ligue des Champions et Ligue 1 cette année?
Dans les trois clubs français qui jouent la Ligue des Champions cette année, aucun n'a un effectif suffisamment bon en qualité et en quantité pour prétendre à figurer parmi le top 8 européen, je pense. Quand on voit les gros soucis de Lyon, qui sans Benzema et à plus petite dose sans Juninho n'arrive pas à gagner contre Nantes, ça, et se prétendre grande Europe au même titre que les Barcelone, Manchester United et autres qui ont un banc extraordinaire comparé à tout ce qu'on peut voir en France. Je rigole. Mais ça, je vois vraiment pas comment Lyon peut faire si Benzema n'est pas là. C'est la Benzema dépendance et personne, je pense, ne pourra dire le contraire. Après, ça se soigne. Hein. Il y avait bien la...
Faut pas rêver, on n'aura jamais un club de Ligue 1 qui aura un effectif comme le Barça, mais Lyon a un gros effectif cette année, hein, comme chaque année. Mais là, tu parles de l'absence de Benzema et Juninho face à Nantes, mais il y a quand même beaucoup plus de joueurs que ça. Ils ont parti pour changer toute l'équipe. Ils n'ont vraiment pas de chance. Ils tombent contre vraiment des gros pépins. Donc, faut pas non plus jurer que par ces deux absences.
Rapport aux années précédentes, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'effectif type d'Amosti de Lyon, ce n'est vraiment pas pareil. Je pense que Dan pourra nous en toucher un petit mot, mais je me rappelle un petit peu de l'époque où il y avait des problèmes sur le côté gauche car on ne savait pas qui mettre. Et là, cette année, je vois qu'il n'y a quasi pas d'ailier gauche. Donc, d'ailier gauche pur, je doute vraiment de la qualité de l'effectif lyonnais cette année, qui, à force de vouloir recruter, entre guillemets, piller les autres clubs, eh ben, on se retrouve avec des problèmes d'équipe comme ça, comme on voit qu'ils ont été gravement touchés par les blessures, c'est vrai, mais je pense que un défenseur potable en plus sur le banc autre que du défenseur droit, je pense pas que c'est du luxe. Et je pense que autre part que des équipes en France, il y a sincèrement, quant à la qualité et à la quantité de l'effectif lyonnais comme celui des autres, je réponds qu'il n'est vraiment pas assez étoffé.
C'est dommage parce que c'est vrai que je voulais juste dire sur une petite déception que j'avais moi de mon côté. Un mec comme Thiago, qui à la Juve est vraiment très mauvais, là il a fait quelques matchs depuis le début de la saison, il est, on va dire, pas mal par rapport aux autres à la dernière surtout. C'est vraiment une déception d'avoir lâché un mec comme ça et c'est vrai, Dan, que tu fais bien de rappeler cet exemple type de joueur qu'on était allé chercher au Portugal, il me semble. À Chelsea, Thiago, et c'était cet exemple-là du joueur que je dis, il était reconnu pour être bon. C'est pas non plus, on va pas avoir la qualité de l'effectif de Barcelone en France. Évidemment, on n'aura jamais un Messi ou un Neto, mais on peut avoir un mec comme Thiago qui était un bon joueur de première ligue. On pouvait avoir, c'est pour ça que je prenais les exemples Milito, Micoli et tout ça.
Il y aura un mec quand même quand ils l'ont pris Thiago, mais justement là la chance serait peut-être de relancer des joueurs qui on sait qu'ils ont un potentiel et qui rament un peu au moment donné, quoi.
Ouais, c'est vrai. Bon, je vais finir rapidement parce qu'on a encore d'autres sujets derrière. Sur un petit pronostic, allez, chacun va faire un petit tour de table. Le résultat et allez, non débuteurs si vous voulez, de dimanche. Adrien, on va commencer par toi.
1-0 pour Marseille, but de Valbuena.
Ok. Bastien, toi.
1-0 pour l'OL, but de Toulalan.
Ça y est, on voit le mec qui est attaché à ses origines. On sait jamais, il avait mis deux belles frappes. Il en avait mis deux sur la barre contre Nice l'année dernière et je sais plus contre qui encore.
Lyon étant beaucoup moins, mais avec Nantes il avait mis quelques beaux buts et il tentait beaucoup plus de loin et il devrait plus essayer, je pense. Et il aurait la réussite.
Il est peut-être plus reculé à Nantes aussi. Vas-y, bah tiens, par exemple, toi Giron, tu vois quoi comme résultat?
0 but de Yoris.
Surtout que, c'est surtout que la victoire peut-être de Marseille arrangerait plus les affaires des Bordelais.
Un petit match nul serait parfait.
Ou alors un petit match nul, ouais. Je vais passer à Helvetia avant de finir par l'Ultra Marseille.
Et pour une équipe à domicile, je trouve pas ça super super. D'accord, ils gagnaient, mais quand même. Mais de toute façon, Le Mans n'a pas eu les moyens de hausser le niveau de jeu et de réussir à stabiliser le score et à tenir un match nul. Par contre, ils ont eu pourtant quelques bonnes occasions. Le petit Maïga était pas trop mauvais.
Modibo?
On va dire. Oui, Modibo. Enfin, Maïga. Et je trouve que Paris a bien géré son match, mais à domicile, c'est dommage de voir si peu de spectacle. Je pense que les supporters se sont un petit peu ennuyés plus qu'autre chose, malgré la victoire. Ah,
c'est sûr, on s'est vraiment ennuyé pendant tout le match. Les matchs au Parc des Princes cette année sont vraiment ennuyeux, c'est vrai. Le match face à Lille il y a un mois, il était ennuyeux. Le seul match où on a eu du spectacle, c'était PSG Lyon, quoi, où c'était...
Ah, c'est surtout que l'enjeu du match a joué sur le résultat visuel, on peut dire, qu'on voyait sur le terrain. Avec l'enjeu était tellement important que même si le match était on va dire moyen, les supporters étaient tellement contents de voir Paris mener contre le leader que tu me contrediras pas là-dessus.
Ah bah là l'ambiance au parc cette année, la plus grosse ambiance au parc cette année, c'était bien sûr PSG Lyon. C'était inévitable, mais le match face à Lyon, on l'avait bien géré, de toute façon, je trouve.
L2.
Ouais, il y a Fab qui veut réagir.
Oui, donc, reprise de la... C'est reparti au stade de la Licorne, toujours un partout.
Ok, Fab, vas-y, on peut finir avec toi et sur l'ambiance que t'avais vue et que t'avais surtout écouté face à Lyon.
Ouais, donc face à Lyon, il y avait vraiment une très bonne ambiance. Cette année, hier soir, malgré le match qui ne fut pas passionnant.
Merci Adri. Donc on va peut-être passer à l'avis de Kevin.
Ouais, je voulais dire, parce que là, je viens de dire que les matchs n'étaient pas super, mais il ne faut pas non plus trop demander. Il faut pas oublier la saison qu'ils font l'année dernière. Donc déjà, ils sont beaucoup plus solides. Donc faut pas trop demander, déjà ils gagnent, c'est déjà bien et on va pas faire la fine bouche non plus, quoi.
C'est vrai que si on compare par rapport à la saison dernière, il y a déjà un mieux au niveau de la solidité défensive et de l'assise défensive. Alors comme tu dis Giron, c'est déjà mieux. Alors peut-être que du côté de Paris on a trop voulu peut-être griller les étapes, on pensait trop, moi le premier, on pensait trop que ça allait être l'année où Paris allait pouvoir vraiment remonter d'un coup. C'est vrai qu'on faut peut-être pas trop griller les étapes, il y a déjà la solidité défensive, après le spectacle devant, il peut venir notamment d'un mec comme Oaro qui a peut-être pas encore cette assurance et cette sérénité devant le but, mais qui a un réel talent, je trouve, et ça c'est un très bon point du côté de Paris justement sur Oaro. Est-ce que t'aurais, toi, je sais que t'as ton petit avis personnel, Adrien, sur ce joueur-là.
Moi j'apprécie beaucoup Oaro. Hier il a fait preuve vraiment de réalisme. Il a eu besoin de deux occasions pour marquer, au contraire de d'habitude où il a besoin de pas mal d'occasions pour
Et puis là, on a vu sa confiance. Je t'interromps deux secondes. On a vu sa confiance parce que il a tiré deux fois en première intention alors qu'il aurait pu s'avancer. Il y a quelques matchs en arrière. Le mec aurait contrôlé son ballon. Il se le serait placé pour essayer de bien le prendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Là,
ouais,
il
passait, non, mais...
pourtant, c'était devant le parc. Un parc quand même. Bon, il n'y avait pas énormément de monde hier, il me semble.
Il y avait moins de monde que d'habitude. Bah, à mon avis, c'est à cause du match qui a été déplacé du samedi au dimanche. Ouais. Ça a pénalisé beaucoup de supporters à mon avis, mais Mais l'ambiance était quand même rendez-vous.
Et donc, on voit quand même une amélioration au fur et à mesure du temps. Il s'acclimate un petit peu au jeu parisien et t'espères vraiment de belles choses de sa part, toi, Adrien.
Il peut vraiment faire des bonnes choses à Paris s'il continue sur cette lignée. Et il y a vraiment beaucoup de choses encore à apprendre. Il faut se dire qu'il est jeune et ça peut être l'avenir du Paris Saint-Germain, quoi. Donc,
comment, Jérôme?
Il a quel âge là, Ouaro?
Il a 24 ans, il me semble.
Ouais, 24.
24.
Ouais, pour moi, en début de saison, j'étais un peu perplexe. Surtout, il manquait vraiment beaucoup d'occasions. Mais c'est vraiment un joueur complet. Il a le meilleur buteur au championnat, alors qu'il fait un travail énorme en attaque. Donc moi,
et même en défense.
Ouais, je voulais dire en défense. Il défend tout ça, il va chercher les ballons, il joue en déviation. Donc ouais, c'est un joueur très complet. Il vient juste de Ligue 2 et il commence déjà à être meilleur buteur. Donc c'est vraiment sûr.
Tiens, juste. Vas-y, Adrien.
Un petit truc, c'est qu'il aide énormément défensivement. Il y a des points positifs et négatifs sur cet aspect. Des points positifs parce qu'il peut aider l'équipe quand on a un peu de mal, et il aide vraiment bien défensivement sur les corners, des choses comme ça. Mais ça peut notamment le fatiguer pour aller vers l'avant à la fin du match. Il peut être...
Et franchement, c'est un joueur que j'aime bien.
Continue comme ça.
Ouais, c'est un joueur que j'aime bien aussi parce que, hormis le fait qu'il a peut-être quelques petites défaillances techniques parfois dans ses contrôles de balles, dans ses approximations ou même dans la finition, c'est vrai que c'est un joueur que j'aime bien, c'est qu'on va dire qu'au niveau du caractère, il a la classe et pour son âge, bon, il a 24 ans, c'est plus un espoir à 24 ans, on va dire, mais Guignon est de l'année dernière pour l'avoir suivi avec le Havre. C'est un joueur très collectif qui sait se rendre au service du collectif et donc qui a pour moi une certaine classe dans son caractère, dans sa mentalité. Est-ce que toi, par exemple, vas-y, finis Adrien, je poserai une question à Vivien.
Bah, notamment, comme tu l'as dit, quand il fait ses buts vraiment très sobrement, il va pas vers le public s'enflammer comme l'a fait par exemple hier soir Lundula. Il reste vraiment très très sobre, va voir ses coéquipiers et tout, enfin.
Ouais, moi j'aime bien ce caractère-là, même si j'aime bien les joueurs aussi qui enflamment un peu le stade. C'est, il en faut aussi, mais des joueurs comme ça, c'est très. Je trouve que c'est vraiment un peu une caractéristique, mais qui qualifierait la classe chez ce joueur-là, je trouve. Je voulais te poser une petite question, Vivien, par rapport à quand tu l'as vu évoluer l'année dernière, et puis tu l'avais déjà découvert, je pense, avec Guignon il y a 2 ans, quand il avait marqué en deuxième partie de saison quelques buts quand même avec le FCG, est-ce que tu pouvais lui prédire que à la même époque, il me semble, il en était à 15 buts l'année dernière avec en Ligue 2. Là, il en est à 10. Est-ce que tu pouvais prédire un début de saison et peut-être une saison aussi exceptionnelle qu'il est en train de vivre en ce moment, même si je reste mesuré sur le mot exceptionnel?
Sûrement pas autant, mais c'était un joueur qui avait beaucoup d'espoir en lui, je pense. Il y avait beaucoup de monde qui pensait qu'il réussirait bien, forcément. Après, je pensais pas qu'il jouerait aussi bien pour sa première saison. Mais ouais, je m'y attendais à peu près, ouais.
Ok. Et est-ce que comment tu trouves, tu vois comment les caractéristiques de Oaro, tu les bases surtout sur son physique, sur des déviations, ou est-ce que tu penses qu'au niveau de la finition, ça peut être plus un mec qualifié dans les finisseurs, ou comment tu vois ça?
Pour moi, ce serait plutôt la finition, je pense.
Tu vois un peu moins Oaro, un mec qui pourra dévier des ballons comme ça, même s'il le fait très bien, je trouve.
Juste 30 secondes pour la déviation, notamment sur le but sur son deuxième but, il fait une belle déviation pour Julie, qui lui refait directement et ça va arrêter ses buts. Et notamment face à Lille aussi, où il fait une déviation.
Et justement, ça montre un peu la complémentarité de ce joueur avec Julie et le fait que aussi Oaro soit un peu complet dans son jeu. On va dire, allez, je me lance un petit peu, Giron va me taper dessus, mais il ressemble un petit peu à Chamakh dans son jeu, un peu au service du collectif. Il met quelques buts en plus de Chamakh. Bon, Chamakh est un niveau au-dessus en ce moment, en ce début de saison, même si Chamakh met pas tous ses buts, évidemment. Dans le jeu, je trouve que Chamakh est meilleur. Mais
ouais, je pense que Chamakh, quand même, il tient mieux le ballon, il a plus de facilité à par exemple, éliminer son adversaire, mais Oaro est quand même meilleur dans le but, par contre.
Ouais, voilà. Donc c'est un joueur, on va dire, qui a les caractéristiques un petit peu similaires, et donc c'est pour ça que je suis un joueur que j'aime bien, un Chamakh. Je voulais faire le rapprochement. Il y a une réaction du forum pour sur le Paris Saint-Germain, FAP, avec toi.
Oui, donc c'est une réaction plus sur les objectifs de cette saison. Donc une réaction d'Enzo, pilier du Topic PSG, qui nous dit en gros que l'année dernière ils reviennent de loin. Donc cette année c'est déjà un très bon classement et qu'il faut pas se fixer d'objectifs, qu'il est préférable de prendre les matchs un par un et de voir où ça mène plutôt que de se fixer des objectifs, parce que vu qu'ils reviennent de très loin, ça serait irraisonnable de pouvoir prétendre à la Ligue des Champions par exemple.
Tu voulais un petit peu confirmer les propos d'Enzo, Adri?
Ah oui, il a tout à fait raison, que je suis tout à fait d'accord sur ses propos. Voilà.
Ok. Moi, je voudrais aussi revenir à un truc, parce qu'on a parlé un petit peu de tout ce qui fait le PSG, en particulier de Haro. Est-ce que si on élargit un petit peu au système de jeu et à l'effectif, est-ce que tu trouves pas que Paris a un effectif quand même en qualité, on va dire, limitée? En quantité, ils ont les joueurs, mais en qualité, sur le banc, et là, je vais encore reprendre mon expression, pas de profondeur du banc. Là, t'es d'accord avec moi que, à part Louis Ndoula qui est en train de se découvrir des talents de buteur assez intéressants pour relayer avec l'attaque, avec un Kezman qui, pour moi, a toujours de bonnes choses en lui. Moi, c'est un joueur que j'apprécie quand même, même s'il me déçoit de plus en plus. Je suis sûr qu'il peut, qu'il va montrer à un moment ou à un autre ce qu'il vaut vraiment. Mais avec, bon, on va dire qu'au niveau de l'attaque, c'est assez stable, avec un Julie aussi qui peut devenir un comment on va dire, un attaquant de pointe, un numéro 9 en ce moment. Est-ce que au milieu de terrain, à part peut-être Chantôme au milieu de terrain, Pissako en défense, est-ce que tu trouves pas que c'est quand même limite cet effectif du Paris Saint-Germain et ça va leur nuire sur une longue saison à 38 journées?
Bien sûr, c'est limite, parce que quand on voit un mec comme Thiara qui fait une bonne saison pour l'instant et que s'il se blesse, à un moment ou à un autre, le Paris Saint-Germain se tape Mabiala ou Mounoubou, quoi.
Bah, et encore plus, par exemple, de l'autre côté avec Armand. Armand qui est vraiment, pour moi, un des tout meilleurs arrière-gauche en France.
C'est pas pénalisant, parce que comment il s'appelle, parce que Sako peut jouer en tant que arrière gauche, donc encore.
Ah oui, c'est vrai. On l'a vu contre Manchester City la semaine dernière, ouais. Vas-y, Jérôme.
Dans le 11 de départ, il y a Roten. Franchement, cette année, je trouve mais merdique de chez merdique. Son geste technique préféré, c'est le demi-tour. À chaque fois qu'il a un joueur face de lui, il tente rien. Et on l'a vu encore hier, il fait une course en contre-attaque, il se fait rattraper en deux temps trois mouvements par un manceau. Franchement,
ça commence à se connaître, son
Moulin, les gens en avaient parlé.
Saison, qui parlait de lui, qui disait qu'il avait une remorque, que c'était pas un joueur de football, tout ça, j'étais un peu contre ça, mais là cette année, il est pas en train de le faire mentir.
On en avait parlé un peu la semaine dernière sur Roten, et dès qu'il avait la balle en tant que à peu près en milieu central, quoi, ça allait déjà mieux, notamment face à Rennes la semaine dernière quand il avait été replacé en tant que milieu central. Et ben là, il avait vraiment il tenait mieux sa balle, il passait mieux les ballons. Et franchement, ce serait mieux qu'un jour que Le Guen mette Clément sur le banc, qu'il mette Roten en tant que milieu central, et ensuite de mettre Lundula en tant que titulaire, parce qu'en ce moment le Lundula titulaire, ça vraiment pas, ce serait pas volé pour lui.
Ok, c'est vrai que Louis Ndoula est auteur réellement d'un très bon début de saison. À chaque fois qu'il remplace, il est on va dire intéressant pour les supporters et son entraîneur. On voit un petit peu quelques limites, par exemple à Manchester City où il rate un petit peu et au niveau de la finition, mais bon, on va pas lui reprocher ça, il a tellement été actif dans ce match-là qu'on peut pas lui reprocher ça. Une dernière question que je voudrais te poser sur Paris. On parle pas trop de Landreau, on l'a beaucoup critiqué l'an passé. Comment tu le trouves en ce début de saison?
Sur Fugers, généralement je suis l'un des seuls à encore le défendre. Malgré son bon début de saison, je trouve il fait vraiment un bon début de saison. Hier soir il a pas eu grand chose à faire. Généralement ces derniers temps il a peu de choses à faire. Donc pour l'instant on peut pas trop juger, mais moi je trouve que dès qu'il a un art à faire, il le fait. Donc pour l'instant moi je ne lui reproche rien cette année. En tout cas jusqu'à l'instant il n'a rien fait de mal.
Ok, ok. Donc, bah, on a bien compris ce que tu pensais sur le fait que Paris aurait vraiment des difficultés à atteindre cette troisième place. Moi, je me dis que c'est peut-être possible avec une irrégularité marseillaise, avec quelques difficultés au niveau de la réussite bordelaise. Je me dis que pourquoi pas Paris comme ça, si c'est serré un petit peu comme l'année dernière, ça l'a été au niveau surtout de la troisième place. Pourquoi pas Paris au finish pour accrocher quelque chose. Mais c'est vrai que sur le long terme, leur profondeur de banc pourrait peut-être un petit peu faire défaut. Je pense que on a fait aussi le tour sur ce sujet du Paris Saint-Germain. La semaine prochaine, parce que là on va passer à la Ligue 2, la semaine prochaine on parlera un petit peu de l'AS Monaco normalement. On parlera aussi on reviendra sur le choc Lyon-Marseille, excusez-moi. Donc on aura un peu tous ces sujets là qu'on abordera la semaine prochaine. On va donc passer maintenant au dossier Ligue 2 que tu vas nous présenter un peu, Fab. Tu nous confirmes toujours un but partout en Ligue 2?
Toujours, et je plains les supporters du stade de la Licorne qui doivent bien s'ennuyer. Donc oui, toujours 1-1, et s'il y a du changement, je sais pas.
Ok, ben, je vais te laisser le micro pour que tu nous dises un petit peu ce dossier que tu nous présentes, en quoi consiste ce dossier Ligue 2 ce soir, que tu vas animer avec Vivien, notre nouvelle recrue.
Oui, donc voilà, c'est la première fois dans une émission qu'on... On sentait un petit peu ce besoin de parler de ce petit championnat qui mérite quand même l'attention et qui regroupe quand même pas mal de gens sur le forum. Et on pensait que ça serait une bonne idée, surtout dans cette spéciale foot français. Donc pour ce soir, on a fait le sujet le plus banal possible. On va parler du quatuor de tête, à savoir Lens, Metz, Strasbourg, Boulogne. Des gros joueurs de Ligue 2, donc ceux qui ont plus un niveau Ligue 1. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, que ce soit sur le forum ou même les animateurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est bon, c'est bien. Donc je vais laisser la parole à Lucien qui va nous présenter un petit peu son club, c'est-à-dire Boulogne.
D'accord. Ben Boulogne, c'est un club qui a été promu il y a 2 ans. Maintenu de justesse la saison dernière et qui là fait un début de saison énorme. Ils sont en deuxième pour l'instant. C'est une surprise parce que personne ne les attendait vraiment là, je pense. Tout le monde voyait Lens, Strasbourg et Metz se balader. Et finalement, bah non.
Est-ce que justement sur Boulogne, d'abord je vais te demander. Comment la gestion du club, c'est quoi? Place aux jeunes, c'est surtout le long terme, on essaye à la stabilité. Le recrutement cette saison, est-ce que ça a été un bon recrutement? Parce que comme la plupart de nos éditeurs ne suivent pas excessivement la Ligue 2, à part pour les spécialistes, et on aimerait bien découvrir un petit peu. Est-ce que Boulogne, ça a été un peu le coup, les surprises du mercato, non? Ou est-ce que ça a été surtout la stabilité?
Ben ouais, je pense que c'était un bon mercato. Surtout que les clubs qui viennent d'avoir le statut pro en 2 ans, ils peuvent pas recruter vraiment. C'est seulement les joueurs libres ou en prêt. Et je pense que Boulogne a bien géré ça. Ils se sont renforcés là où il y avait vraiment besoin, je pense. Avec par exemple l'arrivée de Lachor en défense, qui était peut-être le centre principal. Ou de Bléiac en attaque pour aider Chill, qui était un seul vraiment. Je pense que ouais, le mercato il a été bien réalisé, normal.
Ok. Une réaction sur Boulogne, Elvisia.
Ouais, donc Boulogne qui peut-être joue un peu les troubles faits en ce moment en Ligue 2. Ils ont battu notamment, si je ne me trompe pas, Lens il y a quelques semaines.
Ah non, pas battu, je pense. Non, battu Metz peut-être.
Ah voilà, Metz, pardon, j'ai confondu. Voilà, donc oui, donc tu les vois faire quoi réellement dans cette Ligue 2? La montée, pourquoi pas, ou bien le top 5?
Bah, on pourrait finir, je pense, dans les 3 premiers. Mais, bon, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, on n'a pas un assez bon budget pour monter en Ligue 1, je pense. Je pense que le mieux pour Boulogne, ce serait les 5 premiers.
Et Est-ce que comment, qu'est-ce que t'expliques ce qui a changé? Il me semble qu'ils se sont sauvés l'année dernière à la dernière journée, si je me trompe pas.
Ouais, dernière minute.
Voilà, dernière minute, tu te rends compte? Et qu'est-ce qui a changé pour que vous avez gardé au niveau de l'ossature du staff et tout ça? Ça a été c'est resté en l'état cet été du côté de Boulogne?
Bah ouais, je pense que les principaux joueurs sont restés. Puis comme je disais, non, je pense qu'on s'est vraiment renforcé là où il fallait, en défense, au milieu de terrain et en attaque. Après, je pense que ouais, le club, les joueurs, ils commencent à avoir l'habitude de jouer ensemble, je pense. Ça n'a pas trop bougé, à part 3-4 changements. Après, je m'explique pas trop, parce que moi-même, je pensais qu'on jouerait le match encore une fois cette saison.
Ouais, c'est une belle surprise quoi pour toi.
Ouais, je suis surpris aussi. Ouais.
Comme pour tous les supporters de Boulogne. Une petite question sur Grégory Thil, le deuxième meilleur attaquant derrière Guillaume Moirot la saison passée, il me semble, derrière meilleur buteur derrière Guillaume Moirot de Ligue 2 la saison passée. De Bastien, cette petite question sur Grégory Thil.
Oui, donc sur Grégory Thil qui nous avait mis un beau triplé l'année dernière, j'aimerais savoir si Thil est vraiment le joueur de Boulogne, si sans lui, les Boulogne ne ferait pas un peu comme Lyon, quoi, si c'était pas la Thil dépendance à Boulogne.
La saison dernière, c'était vrai, c'est sûr. Mais là, je pense que Bléa qui apporte beaucoup à côté de Thil. Puis Thil, il apporte beaucoup, mais on le voit moins cette saison. Parce qu'il est plus marqué par les équipes adverses.
Oui, c'est le problème de une fois qu'il a fait une grosse saison, quoi. Mais est-ce que Thil, justement, il a quel âge? Est-ce que tu sais à peu près?
Il doit avoir près des 28, je crois.
Ouais, donc c'est déjà, ouais, c'est peut-être pour ça. Ce que je me disais, après une saison comme il a fait, comme l'an passé, le fait que Boulogne n'était pas en matière de pouvoir rivaliser avec des clubs en comptant qu'ils étaient 16e et qu'ils avaient encore pour objectif cette année de jouer le maintien, au niveau de l'attractivité, Boulogne n'était pas, et même au niveau du climat, Boulogne, c'est pas, au niveau d'attractivité, on a connu mieux. Donc je pensais que des clubs, on va dire, comme Lorient, ou comme Valenciennes, ou comme Sochaux, je sais pas, des clubs, on va dire, qui jouent deuxième partie de tableau, aurait pu recruter un attaquant comme ça, ça aurait pas été un pari trop risqué, parce que c'est quelqu'un de très bonne mentalité, de ce que j'en connaisse, avec de bons talents de fisseur, il les a exprimés l'an passé, donc je pensais vraiment que Thil aurait pu, peut-être, on va pas dire percer en Ligue 1, mais pouvoir faire sa place dans une équipe, on va dire, moyenne de Ligue 1. Est-ce que... Alors, il y a une autre réaction de Helvetia sur Boulogne, sur Mer.
Ouais, donc justement, tu disais que bien que la promotion Ligue 1, tu la vois pas pour tout de suite, notamment pour tes questions de budget. Mais est-ce que à Boulogne, on commence à parler tranquillement d'un possible passage en Ligue 1, est-ce qu'il y a un objectif à court ou moyen terme d'arriver en Ligue 1, ou bien c'est simplement un passage? Un bon passage au milieu d'une décennie correcte, mais sans plus.
Je pense qu'il faut qu'on se fait pas trop d'illusions à Boulogne. On sait que c'est pratiquement un exploit d'être là, je pense. Et puis, ouais, dans les années à venir, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on préfère se stabiliser bien en Ligue 2. Puis pourquoi pas, dans quelques années, monter en Ligue 1, mais pas tout de suite.
C'est une équipe avec basée surtout sur la jeunesse, ou c'est plutôt mixte? Parce que je t'avouerai que je connais pas l'effectif de Boulogne à part quelques joueurs.
Plutôt mixte, puis avec des joueurs d'expérience comme Thil ou Lachor.
Lachor qui a joué à Servette de Genève, c'est comme ça. Lachor qui a joué à Servette durant une année, avec qui on a d'ailleurs gagné la Coupe de Suisse en 2001. Il était très bon.
Surtout à Nantes.
Justement, je voudrais revenir sur le dernier match que Boulogne a joué à domicile, 3-3 contre le Tour FC. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce dernier match-là? Tour quand même qui est une belle équipe, qui joue bien au ballon cette année, une surprise de cette saison. Ils sont 7e, il me semble. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le dernier match, parce que maintenant on fera peut-être 5-10 minutes à chaque fois on parlera de la Ligue 2 dans l'émission spéciale France du lundi soir sur Génération Soccer. Donc on va commencer un peu à s'habituer à écouter un petit peu les résultats de la Ligue 2. Et là, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce match-là riche en buts, le plus important, il me semble.
Non, le plus important, c'est le Bastia-Ajaccio 6-2.
Ah oui, le Derby Corse. Ouais, donc sur ce match, ton avis un petit peu.
Ben, je pense que c'est une déception quand même, parce que la Tour, c'est une équipe qui joue bien à domicile, mais à l'extérieur, c'est une équipe quand même assez moyenne. Boulogne était largement favori, mais ils sont très mal partis dans le match. Ils ont vite été menés 2-0. Ensuite, ils ont réussi à revenir juste avant la mi-temps, et puis ils ont tenu jusqu'à la dernière minute, où ils ont pris un but dans les 10 dernières.
Ok, donc ouais, c'est dommage parce que ils ont fait en 10 minutes, ils ont inscrit 3 buts, donc c'était quand même une très belle opération de la part des Boulonnais. Une dernière petite question avant de passer peut-être sur quelque chose de plus général ou peut-être à Sedan avec FAP. Qu'est-ce que tu envisages, on va dire, pour Boulogne sur ce mercato? Est-ce qu'il y aurait des pistes pour ceux qui connaissent un petit peu la Ligue 2? Est-ce qu'il y aurait des pistes du côté de Boulogne?
Bah, pour l'instant, bizarrement, il n'y a pas vraiment de recrues.
Parce qu'avec un début de saison tel, il peut vraiment peut-être essayer de se renforcer pour pourquoi pas essayer de jouer la montée dans la deuxième partie de saison, même si tu dis que toi, le réel problème sera le budget de Boulogne.
Ouais, effectivement. Mais ouais, il n'y a pas encore eu de piste annoncée. Pourtant, les mercato en Ligue 2, ça a pratiquement déjà commencé. Avec, par exemple, Forêt qui a signé à Reims déjà, pratiquement. À Boulogne, il y a Ngong qui est arrivé. C'est un Camerounais, mais à part ça, rien de vraiment annoncé.
Ok, donc ouais, il n'y a pas trop de mouvement. On joue sur la stabilité du côté Boulogne. Au niveau historique, Boulogne a déjà connu la Ligue 1, je sais pas du tout.
Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que non, jamais en Ligue 1. En Ligue 2 déjà, mais...
Ouais, en D2, ouais, plusieurs fois dans les années 60, 70. Ok, ben merci bien Vivien pour cette petite présentation rapide, mais on va faire plusieurs fois des tours Ligue 2 maintenant sur ces résultats, quoi. Votre idole un petit peu à Boulogne, c'est Franck Ribéry, je pense, au niveau des joueurs importants dans l'histoire du club. Je crois que on est d'accord là-dessus, c'est un petit peu votre idole et votre coup de cœur, on va dire, du côté de Boulogne. Maintenant, on va te passer le micro, Fap, et tu vas pouvoir nous présenter un petit peu ton équipe ardennaise des Sangliers Sedanais.
Ouais, donc en ce qui concerne Sedan, ça va être un petit peu plus rapide. Cette année, c'est une saison qu'on pourrait qualifier de transition. On pensait pouvoir croire à la montée, mais on s'est vite rendu compte qu'il y aurait de très 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 grosses difficultés. En fait, si vous voulez un petit peu l'histoire du club, ça fait à peu près 10 ans que l'équipe est pas trop mauvaise. À savoir qu'il y a 7 ans, on a quand même fait l'UEFA, donc c'est quand même... pas trop mal pour un petit club, mais Sedan, c'était un petit peu le Lille de maintenant, c'est-à-dire que il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par là, et comme le club n'avait pas trop des moyens, eh bien ils partaient dès qu'une assez bonne somme d'argent était proposée. Donc j'ai quelques exemples, j'ai Henri Camara qui est passé par le Celtic, Wolverhampton, et qui joue encore en Angleterre. Il y a eu Saïf Diao, il y a eu Modeste Mbaye, il y a eu quelques joueurs comme ça qui ont fait les beaux jours de Sedan et qui ensuite sont partis. Donc l'équipe a toujours été remodelée tous les ans, et a quand même réussi à, après une descente, à remonter pour une année, il y a deux saisons. Et cette année-là, on va dire que la première partie de saison était catastrophique. Je crois on était à 10 points après 18 journées ou quelque chose comme ça. Et par contre, au classement des matchs retour, on a fini 6e ou 7e de Ligue 1, je crois, sur les 18 matchs d'après. Donc la descente a été normale, on va dire, vu la première partie de saison. Et depuis, l'équipe se fait un petit peu piller tous les ans. Donc Pujol, qui joue maintenant à Valenciennes, Amalfitano, qui joue à Lorient, Ducourcheau, qui joue à Valenciennes également. Donc tout ça, c'était des joueurs clés de l'équipe. Et donc cette année, c'est une nouvelle équipe avec un nouveau staff, Landry Chauvin, un petit inconnu. On ne sait pas d'où il vient, mais il est là. Donc bon, je suis pas trop d'accord avec ce choix-là, mais le président pense un petit peu plus au business qu'au club. Donc si vous voulez un petit exemple, c'est le genre d'homme qui tient une boîte de BTP et qui fait tout pour engranger de l'argent, mais qui n'arrive pas à leur sortir. Donc quand le président pense pas au club, c'est difficile de pouvoir prétendre à quelque chose. Donc cette saison, on a fait un recrutement très très modeste et on essaie de s'en sortir tant bien que mal. Les plus beaux matchs sont contre les grosses équipes et malheureusement il n'y en a pas beaucoup. Pour exemple, on est capable d'aller mettre 3 à Lens la semaine dernière, donc il y a une semaine pile où je vous commentais but par but les exploits de Dallard et compagnie, et ils ont réussi à perdre chez eux contre Clermont dans les 5 dernières minutes vendredi, ce qui fait que Sedan est 15e, c'est-à-dire dans le ventre mou de la deuxième partie. C'est assez difficile à digérer quand on sait que l'équipe a un potentiel quand même, mais bon.
Ok. Il y avait une question un peu de Dan qui nous disait, est-ce que tu aurais des explications sur le fait que Pasqualetti est soit parti cet été, il me semble.
Donc, il était loin de sa famille, à savoir que la Corse et les Ardennes, c'est assez éloigné géographiquement. Donc, sa famille, sa région lui manquait. Donc, je crois qu'il est entraîneur d'Ajaccio, si ma mémoire est bonne. Donc lui, il est reparti chez lui, et sincèrement, un coup de chapeau à cet entraîneur-là qui a réussi à stabiliser un club qui en manque beaucoup, beaucoup, beaucoup ces dernières années.
Et moi, j'aurais deux petites questions sur Sedan. Déjà, Amalfitano, qui est parti, je trouvais que c'était un gros moins pour vous, parce que c'était un joueur, franchement, techniquement, qui m'impressionnait vraiment. Je sais pas si toi, tu le regrettes aussi.
Oui, parce que sincèrement, c'était un joueur qui c'était un petit peu le métronome au milieu du terrain.
Je l'avais vu commencer il y a 2 ans, il me semble. C'est ça, il a commencé sa carrière à 2 ans à peu près. Il a commencé sa carrière à peu près il y a 2 ans.
Non. Il avait été première depuis 4 ans, je pense. Et après, on lui a donné la place de Pierre, elle est vraiment explosée en Ligue 1. Et donc, même si Girondingue s'en souvient, durant la quart de finale de la Coupe de France, je crois, il avait vraiment, mais vraiment fait un bien fou à l'équipe. Donc, oui, je le regrette sincèrement, parce que les métronomes au milieu du terrain, maintenant, on n'en a plus. Et c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'on n'a pas de joueurs. On a des joueurs soit trop vieux, soit trop jeunes, et l'amalgame s'est pas fait cette année. Et c'est pareil, on va encore devoir changer d'effectif l'année prochaine et repartir pour une saison de transition. Et
oui, c'est assez lassant pour les supporters. On connaît ça par exemple à plus haut échelon côté de Monaco. Juste pour finir sur Sedan, qu'est-ce que tu vois toi pour la suite des saisons, ou alors et plutôt à côté aussi, qu'est-ce que tu espères, on va dire?
Ce que j'espère, c'est, je sais pas, moi, la démission de Pascal Urano, quelque chose dans...
Et au niveau du classement?
Et la démission également de Landry Chauvin, tant qu'on y est. Autant en virer tous les incapables d'un coup. Et...
Au niveau du classement, t'espères quoi?
Au classement, raisonnablement, je dirais maximum la 8e place. Maximum.
Maximum, ouais.
Et pour le moment, j'espère simplement qu'on va pas descendre, quoi. Parce que c'est parti pour être compliqué quand même.
Ouais. Une petite question pour FAP, Helvetia.
Ouais, donc juste comment t'expliques le fait qu'une année après être monté en Ligue 1 et descendu, on voit le Sedan qui se rétrograde facilement dans le classement et désormais dans l'entremou. On a vu ça il y a quelques années avec Bastia aussi, qui maintenant arrive à vraiment beaucoup de peine à se ressortir. Alors c'est pourtant des clubs qui ont vraiment joué très longtemps pour Bastia, un très bon moment pour Sedan en première division.
Donc je vais te répondre simplement que lorsque Sedan est redescendu, les clubs moyens de Ligue 1 ont acheté les meilleurs joueurs sedanais à un prix assez bas. En sachant que Pascal Urano, avec un chèque dans les mains, c'est un peu comme Rocco Siffredi est une femme. Il ne peut pas s'empêcher de le prendre. Donc, ce qui a posé problème, c'est le nombre de prêts pour compenser ses départs. Donc, je crois, si ma mémoire est bonne, il y avait 6 des titulaires qui étaient en prêt. Donc, à partir de ce moment-là, on peut pas prétendre faire deux bonnes saisons de suite avec 6 titulaires en prêt. Donc, le problème vient de là. Le problème, c'est que si on recrute pas intelligemment et qu'on met pas un petit peu d'argent quand même sur la table, on n'arrivera à rien. Favoris pour la montée sont Metz, Lens et Boulogne sur le papier, car je doute que Boulogne ait les capacités surtout financières d'être accepté en Ligue 1. Donc moi je dirais Lens, Boulogne et Metz. Et pour les trois qui vont descendre, j'hésite vraiment parce que bon, il y en a déjà deux où la messe est presque dite. Nîmes-Reims, je vois pas ce qu'on peut espérer de Nîmes-Reims. Nîmes pourtant avait du potentiel à l'Armée nationale, mais cette année en Ligue 2, on dirait que ce n'est pas dans leurs moyens. Et puis Reims qui confirme sa mauvaise passe. Et voilà, donc pour le troisième, allez, mettons une petite pièce sur une équipe comme Amiens, Dijon, Clermont.
Ok. Et toi, les trois, vite fait, Vivien, les trois que tu vas monter, les trois que tu vas descendre
Pour la montée, je vois Lens, Strasbourg, puis Montpellier. Et pour la descente, Nîmes-Reims, ça m'a l'air un peu fichu. Puis je mettrai Châteauroux, Amiens.
Ok, une vision un petit peu différente au niveau de ceux qui peuvent monter. Bon, on vous remercie pour cette partie Ligue 2 qu'on complétera un peu chaque semaine. On se réservera un petit peu de notre temps pour suivre ce championnat qu'on découvre au fur et à mesure sur Génération Soccer. On va faire très vite, il nous reste encore quelques minutes, avec toi Adrien dans la rubrique en direct de la Ligue 1 qu'on fait à présent chaque semaine et que vous connaissez bien. Vas-y Adrien, news, actu, déclaration, petit truc insolite, tu peux tout dire, c'est à toi.
Donc on va juste commencer par Sébastien Frey qui a vu les déclarations de... On a tous vu ses déclarations par rapport à l'équipe de France, par rapport aux personnes de couleur... de couleur noire. Il a dit que... Maintenant. Voilà, donc c'est parti.
Flash spécial sur Génération Soccers.
www.soccers.fr.
Vas-y Adrien.
Tu peux y aller. Voilà. Donc par rapport à Sébastien Frey, qui a fait des déclarations fringantes par rapport à l'équipe de France, qui a dit que notamment face aux personnes de couleur noire.
Ouais, je vais juste résumer vite fait la situation. Il a dit que il trouvait qu'il y avait beaucoup de joueurs noirs en France, et ce qui a été relaté par l'équipe, c'est il aurait dit que de nombreux joueurs de couleur sont en France, c'est peut-être les meilleurs, mais, et c'est le mais, trois petits points qui fait énormément débat, Alors, je vais dire que c'est une phrase qui s'est sortie énormément de son contexte par les journalistes, comme très souvent. La phrase, c'était dans une interview de 6 pages, ça s'appelle Le Sport Week, c'est un complément de la Gazzetta dello Sport, un journal, un quotidien sportif italien.
Le quotidien sportif italien.
Oui, si on veut.
L-E en majuscule.
Et donc cette phrase a été quand même assez sortie de son contexte, c'était sur une interview de 5 ou 6 pages il me semble, et donc il n'a jamais, dans ce qui a été relaté et dans ses déclarations après pour revendiquer son innocence on va dire, ça n'a jamais été question du mais, il a juste dit que les joueurs noirs étaient sûrement les meilleurs. Une phrase aussi que je dirais qui fait pas énormément, une déclaration, même si le mais existe vraiment, c'est une déclaration en Italie qui ferait pas débat. Je me demande s'il évacue pas un petit peu sa frustration de sa non réussite en France et surtout avec l'équipe de France par des phrases comme ça un peu provocantes envers l'équipe de France. Alors après, il vient s'excuser aujourd'hui dans le quotidien Aujourd'hui Sport, mais moi je me demande s'il évacue pas un peu cette frustration envers la France. Il avait aussi dit qu'il n'osait pas descendre à Nice de sa maison à partir d'une certaine heure du soir, parce qu'il y avait des bandes qui tournent un peu dans la ville. Donc on va dire que c'est des paroles qu'il ne faut pas réellement retenir de la part de Sébastien Fay. On va plus s'arrêter sur ses performances. Parce que des phrases qui ne font pas énormément débat en Italie. Et moi, je vois plus ça comme un petit peu de provocation de la part du gardien de la Viola.
Il a dit ce matin dans l'équipe qu'il n'était pas raciste.
Ouais. Il est pas trop les journaux français après ses excuses l'ont pas trop trouvé convaincant lors de ses excuses. Mais bon.
Il me semble dans l'équipe du dimanche, il a dit qu'il y avait eu quelques modifications à l'interview, mais si ça s'avère vrai, l'enchaînement qu'il fait en parlant de l'insécurité, il dit qu'il a peur d'aller en ville à Nice, pour pas qu'il vienne dans la région parisienne parce que là il va pas sortir de chez lui. Et il fait un enchaînement de ça et de l'insécurité. Ensuite, il passe sur le fait qu'il y a trop de Nord, beaucoup de Nord en équipe de France. C'est vraiment très très maladroit et c'est pas le mais après qui change grand chose, c'est surtout l'enchaînement typique quoi, c'est vraiment pas beaucoup.
C'est vrai, surtout aussi le fait qu'il parle aussi de l'immigration dans un pays comme la France ou l'Italie, comme quoi il faudrait mettre des limites ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que tout cet enchaînement là fait que ça a fait énormément débat, on va dire,
Il a dit non mais c'est bon, il y a aussi beaucoup de Romains en Italie qui nous embêtent quoi. Donc,
oui voilà c'est ça, il a pris le justificatif des Romains qui sont assez on va dire influés, qui affluent énormément en Italie. Une autre petite info Adrien, avec toi.
Alors en cette période de fin d'année, donc les transferts, les rumeurs de transfert donc
vont de plus
fréquentes. Donc du côté du Paris Saint-Germain, donc Fabrice Mancrat ne laisserait pas insensible aux Anglais d'Everton.
Oh, lâchez-le. Hein.
Et pour cela, le Paris Saint-Germain suit Jonathan, je sais pas très bien comment on le prononce, les Leger, un joueur qui joue à Anderlecht, qui est sous contrat jusqu'en 2012, et l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais le suit aussi. Du côté de Monaco, un jeune défenseur central de 18 ans, norvégien, qui s'appelle Vegard Landas, donc pourrait prochainement rejoindre l'AS Monaco.
On est bien parti avec Derek comme ça.
Toujours à Monaco, donc Ruffier est remis de sa blessure, donc il fera sans doute son retour face à Valenciennes samedi prochain. Toujours du côté des gardiens à Lyon et à Nantes, donc ça fait plaisir peut-être à Bastien. Christian Lariep serait intéressé pour recruter Rémi Vercoutre, le second gardien de Lyon. Donc après le match face à Lyon ce week-end, donc ça l'a les Lyonnais. Les Nantais ont été intéressés par Vercoutre.
Ok.
Tu veux réagir, Bastien?
C'est comme second gardien ou comme titulaire, tu veux le recruter?
ce serait peut-être comme, comme titulaire apparemment.
Bah non, moi je suis pas d'accord. Alonso, c'est pas parfait. Qu'est-ce qu'il veut
pour remplacer Alonso, c'est sûr que.
Qu'il le et garde puis... là, à Lyon.
Ouais, c'est sûr. Et donc, toujours donc du côté de Nice, qui n'est et Nice n'est pas satisfait de des programmations télévisées qui n'a été diffusée aucune fois sur sur Canal+, donc Nice n'est pas du tout n'est pas content de cette programmation. Et sinon, une petite stat du côté de Lille, 57% c'est le pourcentage de buts inscrits sur coup franc par Michel Bastos cette saison. Mais le Lillois a réalisé cette réalisation cette année. Voilà.
Ouais, un bon coup que pourrait faire, on l'avait déjà dit dans le Debaster samedi soir, un bon coup que pourrait faire un club comme Marseille, par exemple, ou même s'il ne s'adapterait pas bien dans le jeu, un club, je sais pas, comme Bordeaux, on en avait parlé, qui ont de la peine sur les côtés. Un mec comme ça pourrait être intéressant, on va dire, pour l'équipe qui le recruterait.
Pour remplacer par exemple Wendel qui a un peu les mêmes problèmes qu'un Roten, c'est pas un joueur très très rapide, il a un super sens de la passe, super sens du jeu, mais c'est pas très rapide, pas un gars qui va éliminer des joueurs, donc c'est un peu comme Roten, je pense que dans l'axe il pourrait plus apporter.
Ok, il reste plus de... c'est fini au niveau des infos, Adri?
Oui, il n'y avait pas grand chose.
Ok, pas grand chose. Mais bon, c'est vrai que quand on entend des blessures la semaine dernière, comme il s'appelle Réveillère qui était blessé, tu nous l'avais annoncé jusqu'à la fin de la saison. Là, c'est surtout Niang qui, au niveau de la blessure de ce week-end, qui est blessé jusqu'en janvier. Juste pour les supporters de Monégasque, je dis juste que Ruffier, qui est remis de sa fracture du quatrième métacarpien de la main droite, fera sûrement son retour dans les buts monégasques dès samedi contre Valenciennes, à Valenciennes. Donc ça fait plaisir au Monégasque, qu'il aime bien. Je voulais juste signaler ça. Est-ce que c'est fini en Ligue 2 à Amiens, Fab?
Donc il reste quelques secondes et selon toute vraisemblance, ah ben non, il ne reste même plus quelques secondes, c'est magnifique. Nous l'avons en direct, la fin de ce match passionnant qui opposera Amiens à Strasbourg. Donc voilà, ça se solde par un match nul un partout. Donc si on peut faire le trio de tête très rapidement.
Bravo.
Premier Lens 34 points, deuxième Boulogne 32 points, troisième Strasbourg 30 points. Donc sur ce, je rends le fil rouge.
Ok, merci beaucoup. Et moi, je vais rendre l'antenne plus généralement. Je vous remercie tout le monde. Je rappelle, aujourd'hui, il y avait Adrien qui était avec moi pour sa rubrique qu'on apprécie toujours autant. Il y avait Bastien, il y avait Fap, il y avait Giron, il y avait Alvesia et il y avait Vivien, le petit nouveau. Tu nous as présenté ton club, c'était parfait. Je vous remercie tous, je remercie Dan qui était aux manettes, je remercie les auditeurs qui nous écoutaient encore 22h38, on va pouvoir rendre l'antenne. À une prochaine fois sur Génération Soccer, demain il y a de la Ligue des Champions, on espère que vous serez nombreux. Ciao, à la semaine prochaine pour de la Ligue, toujours plus de la Ligue 1. Salut tout le monde, bonne nuit.